Pour commencer aujourd'hui, je vous propose de regarder quelques minutes, mais je vais juste expliquer avant, d'un très vieux film, La Mission. Hein, pour ce, plusieurs vous connaissez, la musique est célèbre aussi. Et le passage qu'on va voir, pour qu'on comprenne, donc ça se passe en Amérique du Sud, et puis c'est une histoire, c'est tiré de faits réels, hein, ça parle de, malheureusement de l'esclavage. Ouais, on va éteindre pour le voir bien. Et donc le personnage qu'on va voir, qui est joué par Robert De Niro, est un ancien esclavagiste qui a été touché par un prêtre qui est venu lui annoncer l'évangile d'une certaine façon. Et finalement, il se repent d'avoir été un soldat qui allait capturer des Indiens pour en faire des esclaves. Et il décide, comme pénitence, de rejoindre une de ces tribus d'Indiens où il a déjà été pour capturer des esclaves. Et il choisit de faire ça en traînant derrière lui, dans un filet, tout son équipement de soldat, donc son armure, son épée, etc. Et donc le petit bout qu'on va voir, c'est ça, donc il est dans ce voyage, parce que ces tribus habitent dans des endroits très compliqués d'accès, et il est accompagné de prêtres qui, eux, ont déjà une mission dans ce village d'Indiens, et il traîne son fardeau derrière lui. Alors voilà, on peut regarder. C'est un très 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 bel extrait de ce film. On pourrait presque terminer là, il y a tout dedans. J'aimerais vous lire maintenant le texte pour continuer là-dessus. 1 Pierre 5, verset 6, jusqu'à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le morceau de film qu'on vient de voir alors pourrait illustrer tellement de choses, à beaucoup de niveaux. Bien sûr, ça parle de ce que Christ a fait pour nous en nous libérant de la culpabilité. Hein. Vous avez vu donc l'Indien qui vient avec le couteau, il a eu des membres de sa famille qui ont été pris et déportés en esclavage par ce soldat, et puis il lui pardonne, hein, et c'est lui qui le libère du fardeau de la culpabilité en le laissant tomber. Alors bien sûr, ça illustre cette chose-là, ce que Christ a fait pour nous. Ça illustre bien sûr le pardon entre les êtres humains, la voie du pardon, et quand on voit la joie de ces gens qui pardonnent et qui l'accueillent, et puis c'est eux qui le libèrent, c'est très très beau aussi. Mais avec le texte que j'ai pris là, et la raison pour laquelle j'ai pensé après à cette illustration-là, c'est parce que j'étais sur ce sujet de se décharger de nos fardeaux. Et puis en méditant là-dessus, je marchais, puis j'ai repensé, parce que je connais assez bien ce film et je regarde souvent, c'est pas souvent, de temps en temps cette scène, elle me touche toujours autant. Et je voudrais qu'on avance progressivement dans ce texte, parce que souvent, on le dit avec... le vocabulaire est là, on peut avoir une décision intellectuelle, « Oh Seigneur, je me décharge sur toi ». Mais la réalité, c'est qu'on marche avec le poids sur les épaules. Hein. Et c'est vrai que si le pardon de Christ est instantané, si sa libération, elle est instantanée, mais dans nos vies, un petit peu comme cet homme-là, il a dû marcher, parce que là, on a vu juste un bout, mais en fait, il part depuis la ville où il avait été rencontré par les prêtres, et c'est un très long voyage qu'il fait en traînant ce fardeau derrière lui, jusqu'au moment où il va être libéré et c'est coupé. Hein. Et pour nous aussi, il y a un processus, et ce processus est un petit peu développé dans le texte qu'on a lu ici. Et puis ça permettra aussi de dépiéger un petit peu certains termes et certaines choses qu'on trouve dans ce passage. Le texte commence avec « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable ». Humilier, c'est pas un mot ou un verbe qu'on aime. Hein. Humilier, humiliation, bof. Hein, voilà, c'est pas quelque chose de positif. Et souvent, on a mal compris ce texte-là parce que justement, on pense à l'humiliation qu'on a pu subir nous en tant qu'humains de la part d'autres êtres humains qui nous ont humiliés. Hein. peut-être déjà à l'école, parce qu'on n'était pas comme ci, pas comme ça, ou ailleurs, ou dans les églises aussi ça se fait, au travail, partout. Lorsqu'il est dit ici « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu », ça n'a rien à voir avec le fait d'être humilié par quelqu'un d'autre, hein. C'est au sujet de faire l'action, et ça ne parle pas du tout de se rabaisser. C'est pas l'idée de dire d'aller devant Dieu, oh, je suis mauvais, je suis nul, je suis misérable, en se frappant le dos et puis de marcher à genoux. Et ah, ça, c'est le mauvais côté qu'on pourrait tirer du bout de film qu'on a vu. C'est cette idée qu'il fallait qu'il souffre beaucoup pour mériter son pardon. Hein. Et ça, c'est pas la bonne nouvelle, c'est pas l'évangile. Mais quand nous entendons, quand nous lisons plutôt un texte comme ça, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Peut-être parce que c'est dans ce sens-là que le christianisme a enseigné ces choses-là. Hein, ben c'est, vous êtes des misérables, vous méritiez l'enfer, et puis, ah, misérable fer de terre que vous êtes, roulez-vous dans la poussière. Hein. Non, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. En fait, c'est un lien direct avec le sujet de la semaine dernière. S'humilier devant Dieu, c'est dire à Dieu, ta façon de penser est la bonne. C'est celle qui est la meilleure. Lorsque je prends la place que Dieu m'a donnée, je m'humilie sous la main de Dieu. Vous voyez la différence ? C'est pas de se dire, oh, que je suis nul. Mais oui, je suis nul, ça on le sait, c'est réglé, c'est pas même pas la peine d'en parler. Mais en même temps, Dieu dit, vous êtes mes enfants, et puis je vous aime, pas à cause de vous, parce que j'ai décidé de vous aimer, je vous ai pardonné, pas à cause de vous, à cause de Christ, parce qu'il est mort pour vous. Et maintenant, je vous demande de prendre votre place dans mon royaume. Pas juste pour vous, pour que la vie vous soit douce, agréable et confortable. Prenez votre place dans le royaume de Dieu, parce que je vous aime, mais aussi parce qu'il y a des choses que je veux vous confier. C'est aussi un mystère. Dieu pouvait agir sans nous, il pouvait envoyer des anges, il pouvait faire tout seul. Il a choisi de nous confier certaines choses pour le plaisir de faire les choses avec nous. Et d'un côté, cette idée peut paraître étrange, et d'un autre côté, je pense qu'on peut tous la comprendre, même en tant qu'humain, hein, on a du plaisir à faire une chose avec quelqu'un d'autre, même si on est capable de le faire tout seul. C'est pas juste parce qu'on n'aurait pas pu le faire tout seul, mais le faire à deux, ou à trois, ou à plusieurs, c'est toujours plus, il y a autre chose dedans. Et Dieu a choisi, parce qu'il nous aime, de faire avec nous. Donc, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et de la même façon qu'on ne comprend pas souvent ce que ça veut dire s'humilier devant Dieu, quand il est dit « afin qu'il vous élève », alors là tout d'un coup on s'imagine « ah ben voilà, j'ai souffert un moment en disant que j'étais un misérable vermisseau qui se roulait dans la terre, et maintenant Dieu m'élève et je vais être au-dessus des autres ». Les deux choses sont fausses. S'humilier, c'est dire à Dieu, je veux prendre la place que tu me donnes, je veux devenir ton enfant toujours plus, je veux vivre dans ce que tu dis que je suis. Et lorsqu'il dit qu'il nous élèvera, c'est pas au-dessus des autres, c'est pas pour qu'on règne sur quelque chose, c'est lui qui règne dans le royaume de Dieu par la grâce. C'est que justement, cette élévation, c'est quoi ? C'est lorsque je suis à ma place et que je deviens conscient que je suis à ma place. C'est ça être élevé. Je suis élevé de ce statut de où je, oh, qu'est-ce que je fais sur cette terre, pourquoi je suis là, ou qu'est-ce qui se passe, où je vais, et voilà, je suis à ma place. Donc c'est pas une élévation au-dessus des autres ou au-dessus de qui que ce soit, même pas, c'est pas une position d'honneur dans le sens, ah, waouh, il est là où, non, c'est que j'ai accepté que Dieu fasse de moi ce qu'il veut que je sois, je crois ce qu'il dit, je prends la place qu'il me donne, et je réalise que j'y suis bien. Et vous allez voir comment ce processus-là fait partie de ce qui va nous permettre de laisser tomber nos fardeaux. Et puis surtout, de ne pas le reprendre. Je crois que j'ai déjà raconté plusieurs fois cette petite histoire, mais sur ce sujet, je la trouve toujours tellement bien. C'est une histoire vraie que j'ai entendue raconter par ma maman et ma grand-maman. Quand j'étais jeune, il y avait un marché là, sur la place de la petite ville où j'habitais. Et puis, il y avait une poissonnière qui était un peu comme dans les films de Pagnol, hein, une vraie poissonnière, quoi, corpulente, avec un langage fleuri, etc. Et puis, elle avait ses grands tabliers bleus, et au fur et à mesure qu'elle vendait ses poissons, elle mettait toutes ses pièces de monnaie, c'était surtout des pièces, dans son tablier, puis elle avait la poche remplie de pièces. Et puis un jour, elle rentre chercher quelque chose dans la pharmacie qui était juste en face de la place. Et puis à cette époque-là, vous savez, il y avait ces balances pour se poser. Les gens n'avaient pas des balances chez eux, chacun, pour savoir le poids qu'ils faisaient. Hein. On mettait une petite pièce et puis on montait là. Et puis il y avait l'aiguille comme ça, là, je me rappelle. Et puis elle décide de se poser, puis elle monte dessus. Et puis elle lance une exclamation fleurie en voyant son poids. Et le pharmacien qui essayait d'être aimable, il dit, madame, vous avez la poche pleine de pièces, ça pèse, enlevez-le pour vous peser. Elle dit, ah oui, vous avez raison. Et elle sort toutes les pièces, elle les prend comme ça, elle remonte sur la balance et puis elle dit, non, c'est pareil. Hein? Et ma maman ou ma grand-maman, je ne sais plus, ou les deux étaient là à ce moment-là, et elle racontait, et c'est quelque chose qui restait célèbre dans notre famille. Et souvent, j'ai repensé à ça, je ne sais pas, j'avais 10 ans, hein, ça m'a marqué, hein. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait avec Dieu. Hein. Dieu dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et je dis, ah oui, je les enlève, et puis je les prends dans mes bras, et puis je dis, bah, c'est pareil. Ben oui, c'est pareil, tu ne t'es pas déchargé, tu les as enlevés de tes poches pour les prendre dans tes bras. Hein. Donc il y a tout ce travail qui doit être fait. Et s'humilier sous la main de Dieu pour qu'il nous élève, donc dans le sens où je viens de l'expliquer, c'est une première chose qui est importante. Parce que je ne peux pas me décharger de mes fardeaux si je ne suis pas libre d'être qui je suis devant Dieu, avec mes défauts d'ailleurs, hein, avec, voilà, dans la lumière, ça c'était le message il y a 2 semaines, hein, c'est toujours un petit peu lié quand même. Hein, voilà, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, et puis c'est moi. Retrouver cet état alors, intérieur, hein, je ne suis pas là pour promouvoir le naturisme, où Adam et Ève étaient au départ devant Dieu, il est dit, ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Hein. Après, ils avaient honte, ils n'avaient pas changé entre-temps. Ce n'est pas comme si entre le moment où ils avaient honte et pas, ils avaient pris 50 kilos ou je ne sais pas, ils avaient pris 30 ans et puis oh, j'ai honte. Non, c'était les mêmes. Au départ, ils étaient devant Dieu, puis ils avaient fait, ils n'avaient pas honte, et après, ils avaient honte. Hein. Et nous, on doit apprendre à vivre devant Dieu comme Adam et Ève avant la chute, parce que de toute façon, ils voient à travers nos feuilles de figuier, hein, surtout à l'automne, vous imaginez. Hein, voilà, c'est ça, c'est pas très courant. Et là-dedans, je vais accepter ce que Dieu dit de moi, c'est l'humilité, et je vais occuper l'espace qu'il me donne. Et là, c'est maintenant qu'il y a « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Dans le processus préalable de s'humilier sous la main de Dieu pour trouver sa place, il y a aussi un autre aspect que j'ai un petit peu abordé il y a quelque temps et sur lequel j'aimerais revenir. Ça m'a frappé hier en marchant, j'ai écouté l'épître aux Philippiens. C'est 15 minutes même pas, l'épître aux Philippiens à écouter. Je suis toujours surpris comme c'est court quand on l'écoute. J'ai l'impression que c'est long. Et Paul parle au début et puis il explique, peut-être il est en prison hein, quand il écrit, je serai libéré ou pas, le mieux pour moi, ça serait de partir au ciel avec le Seigneur, mais il y a encore des choses à faire, alors je vais rester là. Et en l'écoutant comme ça, j'étais frappé par cette attitude de Paul qui est prêt à ce que Dieu veut pour lui, que ce soit rester ou partir, dans ce cas-là, c'est le sujet, hein. Mais une chose indispensable pour pouvoir nous décharger sur lui de nos fardeaux, c'est d'être dans une attitude à Dieu où on dit, en fait, ce qui est important, ce n'est pas que tu fasses ça ou ça, c'est que s'il se passe ça ou ça, je le vive avec toi. Et nous, on est tellement focalisés sur ce qu'on veut et donc sur ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous. Hein. Mais en fait, honnêtement, alors c'est normal qu'on ait des préférences, hein. Et puis c'est normal de demander à Dieu ce que nous on aimerait. Hein. Si je suis malade, je ne dis pas à Dieu, si tu veux que je reste malade, je dis à Dieu, j'aimerais guérir, évidemment. Mais en même temps que je dis à Dieu, j'aimerais guérir, au fond de moi, je dois être dans cette attitude où je veux guérir, mais peut-être je vais guérir ou peut-être je ne vais pas guérir. Et que je guérisse ou que je ne guérisse pas, je veux le vivre proche de toi. Et ça, c'est quelque chose qui est pas simple à vivre, parce que, si je dis à Dieu, guéris-moi, et puis si tu me guéris, ou parce que tu vas me guérir, ou je crois que tu vas me guérir, et puis là, tout va aller bien, et puis ça va être super, et je pourrais témoigner que tu m'as guéri, Oui, mais des fois on ne guérit pas. Hein. Parce que de toute façon, un jour, on ne guérit pas hein, sur Terre. Et puis, là, je suis désemparé. Et là, je dois essayer d'inventer quelque chose. Oui, mais alors Dieu a permis que je sois malade parce qu'il veut que je témoigne aux autres malades. On n'en sait rien. C'est plus simple et plus compliqué que ça. Et puis surtout, ça nous passe au-dessus de la tête, ces choses-là. Et c'est pour ça que dans tout ce qui est devant nous, et c'est ça aussi, s'humilier sous la main de Dieu, hein, c'est pas dire je suis misérable, c'est dire à Dieu, ben, je sais pas de quoi demain sera fait, mais je veux vivre demain avec toi. Et je veux le vivre proche de toi. Et en fait, derrière il est dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais finalement, en voyant ce texte, je me disais, il décrit juste la conséquence. Parce que lorsqu'on est dans cette attitude où on dit à Dieu, bah, écoute, que je vive ou que je meure, je schématise, parce que c'est ce que Paul disait, hein, mais voilà, que tu fasses ce que j'aimerais ou que tu ne fasses pas ce que j'aimerais, en fait, je sais que tu seras avec moi dans ce moment-là. Lorsque je suis réellement comme ça, pas juste dans les mots, intérieurement, hein, bah, en fait, le fardeau n'est plus là. Et c'est ça, vivre par la foi. Encore une autre expression, et j'en ai souvent parlé, dont on doit se débarrasser dans son vieux sens. Quand on se retrouve le mercredi à... C'est plus à Bienne, c'est à Douane maintenant. J'aurais fait un petit PowerPoint pour expliquer. Les mots, c'est des boîtes. Hein. Et puis sur la boîte, il y a une étiquette. Et puis il y a des choses écrites dessus. Et nous, par rapport au vocabulaire qu'on utilise dans notre relation avec Dieu, bon, aussi avec les autres, hein, mais... Malheureusement, la plupart du temps, on doit vider la boîte et puis y remettre le bon contenu dedans. Hein. Parce que, ben voilà, on parlait sur la boîte où il y a marqué chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est quelqu'un qui va à l'église le dimanche, c'est quelqu'un qui donne sa dîme, c'est quelqu'un qui. Ben, c'est pas ça un chrétien. Hein. Et pour chaque chose, c'est comme ça. Et là, c'est encore une fois la même chose. Vivre par la foi. C'est pas une expression qui parle uniquement des gens qui partent dans un autre pays et qui vivent avec l'argent des autres qui travaillent dans leur pays. Ça peut être ça, et ça fait partie des applications. Mais c'est pas le sens premier du tout. Vivre par la foi, c'est à chaque seconde, chaque minute, chaque moment de sa vie, dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Christ a vécu parfaitement par la foi, hein. Il a lutté à Gethsémané. Il a lutté pourquoi ? Il était venu pour mourir sur la croix, il le savait. Il ne demandait pas autre chose. Mais il luttait pour pouvoir le vivre en étant en accord avec la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'il transpire ses gouttes de sang, parce qu'il est conscient d'où il va. Et puis, Seigneur, s'il y avait une autre voie, s'il y a cette lutte, parce qu'il était aussi humain comme nous, jusqu'au moment où, quand il se lève, après la troisième fois, les disciples se sont endormis, ils n'ont encore rien compris pour le moment. Ils le comprendront plus tard, ils vont y passer aussi. Hein. Il se lève, et là, c'est pas qu'il ne se lève pas joyeux et heureux, parce que, ouais, on a trouvé notre solution, je vais le faire sans mourir. Non. Il va aller à la croix. Mais là, il s'est humilié sous la main de son Père, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a pu embrasser le plan de Dieu. Il n'est pas moins dur, mais c'est complètement différent parce qu'il y consent et il ne va pas le subir et il va le vivre jusqu'au bout. Ce qui est spécial pour lui, que nous, on n'a pas à connaître, c'est qu'en fait, dans les derniers moments sur la croix, lorsqu'il prend le mal et l'horreur de toute l'humanité, il est même coupé de son Père. Et là, il est la solitude la plus... On ne peut pas imaginer ce que c'est, cette solitude-là. Heureusement, on en est gardé. Parce que nous, dans ces moments-là, les plus noirs et les plus sombres, Christ est avec nous. Parce qu'il a accepté cette solitude à un moment... pour que nous, on n'ait pas à la vivre de cette façon-là. Et donc, si je vis ma vie avec, encore une fois, c'est normal qu'on ait des désirs, qu'on préfère ça que ça, qu'on ait envie de faire ça. Je ne suis pas là, en train de dire qu'il ne faut rien faire et que Dieu nous montre ce qu'on doit faire. Non, on vit, Dieu nous a donné notre tempérament, notre intelligence, le bon sens, on est né quelque part et puis on fait avec, hein. Donc c'est pas ça, mais c'est que voilà, devant ce qui se passe dans nos vies et qui dépend pas de nous, je marche dans la lumière, je désire prendre ma place, mais ça veut dire aussi je prends ma place dans ce qui est difficile et qui est devant moi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a assez longtemps de ça, on a eu un week-end d'église où Pierre-Yves Svalen est venu nous parler de la souffrance. Et il expliquait comment à un moment, quand il était dans son lit à l'hôpital en train de souffrir, et puis que les médicaments, il avait les doses maximum, mais ça ne faisait pas effet, et il souffrait. Et il s'est rappelé, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'était une sœur qui lui avait donné cette parole-là, en disant, mais des fois, il faut embrasser la souffrance. Et puis, c'était comme si c'était la dernière chose qui lui permettait en fait de traverser cette période-là, c'était de l'accepter et de l'embrasser d'une certaine façon. Ce que Paul dit quand on continue de lire cet épître aux Philippiens, il dit, et si je dois être offert en libation pour le sacrifice en plus, il n'est pas en train de dire je vais souffrir pour mériter quelque chose, mais il dit dans ce que Christ m'a confié, qui est de partager aux non-juifs la bonne nouvelle du pardon en Jésus-Christ, s'il faut souffrir pour ça, j'embrasse aussi ces souffrances. Je les aime pas, je les veux pas, je les cherche pas. Si je peux les éviter, je les évite. Mais si elles sont entre moi et ce que je dois faire pour prendre ma place, alors je les accueille. Et c'est la différence entre une compréhension de prendre sa place dans un sens, on dirait aujourd'hui, spa wellness. Prendre ma place et éviter tout ce qui est inconfortable pour ne garder que ce qui me fait plaisir à moi, pour que je m'épanouisse dans mon moi intérieur. J'ai rien contre cette philosophie, mais elle n'est pas réaliste. Ou alors c'est juste de l'égoïsme pur, donc je fuis mes responsabilités, je fuis tout ce qui est difficile, ça devient difficile dans mon couple, je divorce, mes enfants me cassent les pieds, je ne veux plus les voir, mon chef m'embête, je porte plainte. Non, voilà, on a quelque chose à faire, on a une mission, on a un but, on va d'un endroit à un autre, on est les représentants, les ambassadeurs du royaume de Dieu. Et là-dedans, on est appelé à marcher sans fardeau, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile. Et si on continue, parce que le processus ne s'arrête pas là, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et la suite, soyez sobre. Être sobre, alors nous, si on le limite à ne pas être bourré, c'est bien, effectivement, c'est mieux. Mais ce n'est pas de ça qu'il est parlé uniquement. Être sobre, c'est vivre sans aucune forme d'ivresse. C'est ce que veut dire, si on fait une traduction littérale. Et en fait, on s'aperçoit que naturellement, nous vivons dans l'ivresse permanente. Qu'est-ce que c'est l'ivresse? C'est tout ce qui fait que je ne suis pas dans une conscience active de Dieu. Tout à l'heure, tu cherchais un qualificatif, tu disais au guet, j'aime pas. Non, c'était que. Aux aguets. C'est pas forcément négatif, aux aguets. Un chasseur dirait à l'affût. Mais bon, c'est le côté chasse, peut-être. Mais il y a une autre expression qui est utilisée dans un autre contexte, pour la méditation, en pleine conscience. Être sobre, c'est être en pleine conscience dans tous les moments de ma vie. Être conscient que il y a moi et mes pensées, il y a Dieu qui est là, et il y a des réalités qui sont ce qu'elles sont, et d'être avec un regard qui est affûté. Voilà. Or, déjà, naturellement, l'être humain est à la recherche de l'ivresse permanente, et je ne parle pas de l'alcool ici, c'est un tout petit détail, l'alcool. C'est-à-dire m'occuper avec des choses qui me stimulent pour ne pas réfléchir. Et l'économie de notre planète actuellement, enfin dans une grande partie de ce qu'on appelle le monde occidental, est basée en plus là-dessus. C'est que ce désir-là, ça entretient la machine économique qui fait que je désire tout ou plus de choses dont j'ai pas besoin, mais qui font tourner le monde. Et je fais une toute petite parenthèse, c'est une des choses tragiques ou pas que le Covid révèle, c'est qu'en fait, une énorme partie de notre économie est basée sur des choses inutiles. Et du coup, c'est catastrophique, parce que c'est des gens honnêtes qui travaillent dans ces industries-là. Je disais récemment dans une rencontre, je ne sais plus si c'est 300 ou 400 personnes qui se retrouvent au chômage en France, parce qu'à cause du masque, les femmes mettent plus de rouge à lèvres. Et donc l'usine a fermé. C'est pas un péché de mettre du rouge à lèvres, c'est même très beau de mettre du rouge à lèvres, mais je veux dire, c'est pas indispensable. Les restaurants, les magasins, que des choses qui sont très très bien, c'est, encore une fois, c'est pas un péché ces choses-là. Juste pour dire que c'est pas des choses qui sont vraiment utiles. Et en fait, ça illustre ce besoin d'ivresse que nous avons de changer de vêtements. Alors, normalement, le but d'un vêtement, c'est quoi? C'est d'être à l'abri du chaud ou du froid, la décence, et puis d'être confortable. Si on s'en tenait à ça, l'industrie du textile ferait faillite. Hein? Parce qu'en fait, avec 6 paires de jeans, à part les sous-vêtements, on peut faire toute sa vie. Hein? Enfin, de jeans ou autre chose, je veux dire. Et puis, 3 bons pulls, ça fait pour toute la vie aussi. Quoi, hein? C'est comme ça que les gens vivaient avant, d'ailleurs, pendant longtemps. Quoi. Mais maintenant, on change tout le temps, etc. Donc, il y a toutes ces formes d'ivresse, et puis aussi beaucoup d'autres choses. Hein? Je ne vais pas les citer. Donc, soyez sobres. Parce que c'est quoi le problème avec l'ivresse? C'est pas que c'est être occupé avec des choses qui sont forcément mauvaises, c'est d'être occupé dans nos pensées, en permanence, je dis pas qu'on n'a pas besoin de ces moments-là aussi, hein, mais en permanence, et donc je peux pas être dans ce processus de m'humilier sous la main de Dieu, puisque je suis occupé à autre chose. Hein, et je suis pas concentré sur prendre ma place, la trouver, la recevoir de Dieu et y vivre et surmonter les obstacles. Je suis pris par autre chose. Donc, soyez sobres, veillez. Bah, c'est juste un renforcement de, voilà. Hein. Ne soyez sans ivresse et veillez. Veillez à rester avec un regard affûté, mais veillez à ne pas retomber dans l'ivresse. Hein. Et là, il y a un élément supplémentaire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Non seulement c'est compliqué parce que nous-mêmes, on est porté vers des choses futiles, on ne va même pas dire mauvaises, mais futiles et vaines, dans le sens vide, mais il y a une réalité, qu'on la veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, qui est qu'en plus, il y a un monde spirituel méchant qui veut nous détourner de l'essentiel. Hein. Et là, il y a une image qui est prise pas au hasard. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous avons le privilège aujourd'hui, parmi les choses inutiles que nous pouvons faire, mais qui sont intéressantes, non inutiles, c'est de regarder des reportages animaliers. J'adore ça, quand j'ai le temps. Et je pense que la plupart d'entre vous, on a vu comment chassent les lions. Hein. Il y a ces immenses troupeaux là, de gnous, de gazelles, de je sais pas quoi, là, de viande sur pâte à manger pour les lions. C'est en général des animaux, à part les buffles, qui sont assez faibles, hein, à parcourir, ils ne savent rien faire, ils n'ont pas de dents qui mordent, ils n'ont pas de griffes qui griffent, etc. Mais ils ont une force, c'est le troupeau. Un troupeau compact, même les lions, enfin les lionnes, parce qu'en réalité, les lions, ils ne chassent pas, ils mangent. Les lionnes peuvent rien vraiment contre un troupeau compact. Hein. Donc qu'est-ce qu'elles font, ces braves lionnes qui chassent pour nourrir leurs lionceaux et leurs feignants de mari? Elle tourne autour du troupeau en rugissant. Le but, c'est qu'à un moment, un individu panique et quitte le troupeau. Et s'il fait celui-là, c'est le steak de midi. Hein? Et c'est pas pour rien que c'est cet exemple-là qui est pris ici. Il n'est pas dit que le diable va nous dévorer. Il est dit qu'il rugit pour chercher un qui pourrait être sa proie. Et dans le texte que nous a lu Catherine, que j'ai beaucoup aimé, d'Henri Nouwen, hein, il parle de ces petites pièces d'une céramique qui, en sable, composent le visage du Christ. Et ça, c'est quelque chose aussi avec lequel on a beaucoup de mal de nos jours. J'ai écouté Jean-Jacques, la philosophe que tu m'as envoyée, c'est très bien ce qu'elle dit. Hein, on vit dans des sociétés où l'être humain, elle utilise cette expression, l'être humain est une île, même plus un archipel, une île. Il n'y a que moi, tout seul. On ne veut plus avoir de lien qu'on n'a pas choisi et qu'on ne peut pas rompre. Hein. Mon conjoint m'embête, ben, je le quitte. Comme je dis, mes enfants, ben, voilà, ils n'ont qu'à faire leur vie. Mes parents, ben, ils n'ont qu'à aller dans un home. Et puis, je choisis mes amis, mais s'ils me disent un mot qui ne me plaît pas, qu'ils se tirent. Il n'y a plus de lien qui est indéfectible parce qu'il doit rester. Le centre du monde, c'est moi, moi tout seul, et mon plaisir et ce qui me paraît, et puis j'ai le droit d'être libre, etc. etc., etc. Ce qui n'est pas tout faux. Hein. On est des individus devant Dieu, etc. Mais il y a quelque chose qui est faux quand même là-dedans. Hein. c'est que nous sommes appelés à être l'Église de Jésus-Christ, le corps. Alors, là encore, ces mots, il faudrait vider la boîte et la remplir. Hein. C'est pas possible de trouver sa place. Je parle spirituellement, je parle pas dans son métier ou dans son épanouissement personnel. Hein. C'est pas possible de vivre la vie chrétienne tout seul. Alors, l'Église, c'est pas, ça se résume pas à se retrouver le dimanche matin dans un bâtiment à s'asseoir. C'est pas de ça que je parle. Ça en fait partie, normalement. Hein. Mais le but de l'ennemi, c'est de nous séparer, de nous diviser. Pas forcément qu'on se fâche, hein. Il suffit qu'on n'ait pas de vrai contact, c'est la même chose. Hein. Si on se contente de « bonjour, ça va ? Ouais, moi ça va, et toi ça va ? Hein, bonne semaine, hein, salut, ciao !» et que je rentre chez moi, ça ou rien, c'est pareil. Hein. Ça, c'est de la politesse. En Suisse, tout le monde a au moins ça. Hein. Non. Pour rester dans cette attitude où je marche dans la présence de Dieu, j'ai besoin de vous. On a besoin les uns des autres. Et ce n'est pas une question où j'ai besoin de lui parce qu'il est doué pour prêcher ou de l'autre parce qu'il est doué pour chanter. C'est qu'on a besoin des uns des autres, point à la ligne, tous. Hein. Et lorsque Paul développe ce sujet, je ne vais pas l'aborder là, il dit, dans un corps, il y a des membres qui se voient, il y en a qui ne se voient pas, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a, ils sont tous indispensables. Il n'y a qu'à voir quand on se fait mal au petit doigt, hein, on ne peut plus jouer de la guitare, quoi. Hein. C'est rien, un petit doigt, ben voilà, on peut plus se gratter l'oreille du côté, enfin, on peut plein de choses qu'on peut plus faire. Chaque membre est important et on n'est pas là pour faire un palmarès, c'est lui qui est plus important que l'autre, ils sont tous importants. Et ça, c'est le dernier élément, hein, parce que c'est aussi ce qui m'aide à ne pas reprendre les fardeaux que je dis que j'ai lancés de côté. Le corps de Christ me tient éveillé, il m'aide à fuir l'ivresse. Il m'encourage dans les moments où je suis un peu à côté. Et puis, bien sûr, c'est dans tous les sens. Donc, peut-être il y a des jours où c'est moi qui suis avec une vision claire et je vais encourager les autres. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être délégué à un professionnel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Dieu veut et ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, si on ne le vit pas, nous, ça ne se passe pas. Et puis, on peut avoir un pasteur, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois, on peut changer leur cahier des charges, ça y changera rien. Hein. Oui, on peut avoir sa part à faire, et puis c'est pas inintéressant dans les sociétés où on vit que quelqu'un ait un peu plus de temps que les autres, mais ça remplace pas le corps de Christ. Et parce qu'on est influencé par le milieu où on vit, on a cette tendance à rester sur notre île, et puis en fait, je fais juste un pas en dehors, chercher un petit truc là, hop, et puis je le ramène dans mon île, et je veux pas être lié aux autres, hein, parce qu'on devient, vous connaissez, hein, on est pour toujours responsable de ce qu'on a apprivoisé. Si je dis juste bonjour à Johan, bonjour, hein, salut, hein, c'est bien. Mais si j'accepte de devenir son ami et d'être proche, etc., ça veut dire que le jour où elle est pas bien, il va falloir que je l'écoute. Si un jour elle a des problèmes d'argent, il faudra que je l'aide. Non, sérieux, hein. Elle est malade, peut-être il faut que je m'occupe de ses enfants. Et puis si elle tombe en panne, il faudra que j'aille la dépanner. J'ai pas envie de ça. J'ai assez de soucis avec moi, donc je préfère lui dire bonjour, ça va. Question qui peut être répondue que par oui, hein, parce que même pas ça va, c'est tu vas bien. Et puis pouf, je pars vite. Non, le corps de Christ, c'est autre chose. Ce qui a fait que l'évangile s'est répandu, ce n'était pas des campagnes de publicité sur Internet, par hélicoptère, des affiches ou des slogans, c'était la façon dont les premiers croyants vivaient les uns avec les autres. Pas tous dans la même maison, dans la même... On reste avec du bon sens, ils avaient... Mais voyez comment ils s'aiment, c'est pas juste le fait que quand ils se voyaient, ils faisaient des déclarations et des bouquets de fleurs. C'est juste, ils sont liés les uns aux autres. Ils vivent autre chose. Ils ont une qualité relationnelle qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est ce qui a fait que la bonne nouvelle, ça en était encore une à l'époque, s'est répandue. Hein. Et c'est devenu un truc où on se retrouve en général habillé un peu sombre le dimanche matin, écouter un bonhomme qui fait un discours, et puis on rentre chez soi après avoir chanté trois chants et mis quelques sous dans une boîte. C'est triste. C'est triste. Hein ? Et je dis pas que c'est ce qu'on vit, je sais qu'on vit beaucoup plus que ça, et c'est bien, mais je veux dire, pour voir tout le travail qu'il y a à faire, parce que c'est un tout. Alors je Je termine parce que après l'image du lion, il y a encore une exhortation, résistez-lui avec une foi ferme. Donc rappelez-vous, vivre par la foi, c'est vivre dans cette conscience permanente de la présence de Dieu qui débloque un consentement permanent à ce qu'il agisse dans ma vie. Mais c'est comme quelque chose qui se ferme tout seul si je ne choisis pas de le laisser ouvert. C'est pour ça que je dois être ferme et toujours éveillé. C'est pas une décision que je peux prendre puis je mets un pilotage automatique puis ça se fait tous les jours. C'est qu'à chaque instant, je dois fuir l'ivresse pour dire à Dieu, j'ai besoin de toi pour ce moment-là, j'ai besoin de toi pour ce moment, j'ai besoin de toi pour ce moment. C'est même pas formulé avec des mots, mais c'est une attitude intérieure. Et il nous donne un petit rappel, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères, même pas dans votre église locale, dans le monde. Le royaume de Dieu, il est sur la surface de la terre, il vient pas de façon visible. Mais on est tous dans le même bateau, entre guillemets. Et il n'y a pas que moi pour qui c'est compliqué, il n'y a pas que moi pour qui c'est difficile, il n'y a pas que moi pour qui ce n'est pas naturel de vivre par la foi, de m'humilier sous la main de Dieu. Vos frères et sœurs dans le monde, et nous on pourrait rajouter aussi aujourd'hui dans l'histoire de l'Église, c'est la même chose, même combat pour tous. Vous n'êtes pas seuls. Et le Saint-Esprit est là, il nous lie tous. Et il nous encourage à aller de l'avant avec ça. Alors, je ne laisserai pas, comme la semaine dernière, une question précise avec pourquoi. Mais simplement de voir comment, peut-être dans cette semaine, on peut incorporer cette façon de penser dans notre vie. Chacun, là où on en est dans cette réflexion et dans ce processus. Et puis peut-être, si vous avez des choses à partager là-dessus la semaine prochaine, ça serait super. Et ce que je vous encourage à faire, on va le formuler plus précisément bientôt, peut-être par une lettre qu'on va vous écrire, avec les anciens, on réfléchit à ça. Mais essayez de penser à quelqu'un dans le corps de Christ avec qui vous pourriez parler de ça. Peut-être déjà votre conjoint, si vous êtes marié, pourquoi pas. Mais peut-être quelqu'un d'extérieur à votre famille aussi. Avec le Covid, c'est compliqué, on ne peut pas se voir, mais deux à deux, c'est possible, avec des masques, mais ça peut être un coup de fil, ça peut être un petit appel, un visio, je ne sais pas. Et tiens, c'est du chinois pour toi aussi ou non? Ça veut dire quelque chose? Comment tu veux d'en parler avec un autre, une autre, avec quelqu'un, hein? Parce que c'est comme ça qu'on s'édifie. La Bible dit le faire aiguise le faire, pour parler des relations entre amis. Et moi, j'ai besoin de ça, heureusement, j'ai des gens avec qui je peux le vivre, et plusieurs d'entre vous, mais je vous encourage aussi à le faire.